faciale débute à la fin des années 90 en Californie, dans la Silicon Valley. La bulle Internet a permis à de jeunes entrepreneurs de faire fortune très vite. À 22 ans, Elon Musk vient de revendre sa première start-up et le tout nouveau millionnaire jubile devant les caméras de CNN.
This is definitely very cool. I like it a lot.
Congratulations.
Just 3 years ago, I was showering in the at the Y and sleeping on the office floor. And now, obviously, I've got a $1 million car, and it's just a moment in my life.
L'image d'Elon à la fin des années 90, au tout début de son succès, c'est celle de quelqu'un qui vient de gagner à la loterie. Il avait dépensé une énorme somme d'argent pour une nouvelle voiture de sport, qu'il a complètement détruite lors d'une balade avec un reporter. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela ne le satisfaisait pas. Il utilisait immédiatement son argent pour investir dans de nouveaux projets.
Avec cette tactique, Elon Musk touche le jackpot. En revendant ses actions PayPal, l'application de paiement en ligne, il ramasse 180 millions de dollars.
Quand il a fait fortune en vendant ses actions PayPal, il s'est demandé que faire de cet argent. Et c'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'espace, à l'astronomie et à la science-fiction.
Déçu par le manque d'ambition du programme de la NASA, Elon Musk rêve de relancer la conquête spatiale. Mars le fascine depuis toujours. Le jeune millionnaire va donc prendre les choses en main. Pourquoi n'enverrait-il pas lui-même une fusée sur la planète rouge ?
Il sortait tout juste de ce monde de l'entrepreneuriat digital de la Silicon Valley, où vous pouviez inventer un nouveau monde avec un logiciel, sans limite à votre création. Son but était d'envoyer une plante ou un animal sur Mars pour prouver qu'on pouvait envoyer de la vie sur une autre planète.
Pour réaliser ce projet en apparence totalement fou, il fait appel à un vétéran de l'espace, Jim Cantrell. Il est aujourd'hui basé à Tucson, en Arizona, avec sa société de fusées, Phantom Space. Cet ingénieur a roulé sa bosse dans le milieu spatial, de l'Europe aux États-Unis, en passant par la Russie.
Elon Musk m'a téléphoné un jour de 2001. Il m'a raconté qu'il voulait envoyer des souris sur Mars et qu'il avait besoin d'une fusée russe, car il ne pouvait pas se payer une fusée américaine. Et donc il m'a dit que j'étais un des rares Américains à pouvoir l'aider à acheter une fusée russe. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai, je peux t'aider.
Elon Musk et Jim Cantrell s'envolent pour Moscou en novembre 2001. Leur mission, convaincre les Russes de vendre un missile déconditionné aux jeunes millionnaires. Rendez-vous est pris avec un ingénieur en chef de l'agence spatiale russe.
Elon était un jeune homme de 20 ans et quelques qui s'habillait mal. Ses cheveux étaient toujours décoiffés et il avait peu de talent pour le relationnel. Il a attaqué la conversation brusquement. Il a commencé à décrire ses projets. Vous savez, les espèces multiplanétaires. Et l'ingénieur en chef, il nous a craché dessus. Il a craché sur les chaussures d'Elon, puis sur les miennes. Et Elon s'est arrêté et il m'a dit, je crois qu'il a craché sur mes chaussures. Et je lui ai dit, oui, je crois bien. C'était un signe de mépris. Le type était très en colère car on lui avait fait perdre son temps. Il n'avait pas pris Elon au sérieux.
Après un tel affront, les deux Américains repartent pour New York. Mais dans l'avion, loin d'être abattu, Elon Musk tape fébrilement sur son ordinateur.
Ce mec bosse vraiment tout le temps. Il travaille, travaille. Et je me suis dit, qu'est-ce que cet idiot de surdoué est encore en train de faire? Elon s'est alors retourné vers moi et il m'a dit, on peut construire cette fusée nous-mêmes. Nous allons monter une société et fabriquer notre propre fusée pour aller sur Mars.
Elon Musk va se donner les moyens de réaliser son projet extravagant. Il investit 100 millions de dollars, la moitié de sa fortune pour créer SpaceX. Il l'ignore encore, mais il n'est pas le seul millionnaire à vouloir se lancer à l'assaut de l'espace. la même époque, à Seattle, un homme est en train de révolutionner le commerce sur Internet. Jeff Bezos, 36 ans, est le sémillant patron d'Amazon. Il possède un tiers du capital de la société, une fortune estimée à 8 milliards d'euros. Et le tout jeune milliardaire est fier de montrer, face caméra, la réussite fulgurante de sa société.
J'ai commencé là-bas, à l'est de la ville, dans ma maison. Et puis on est arrivé ici, voilà notre progression. Vous voyez, on est super fort en déménagement.
En 2003, un journaliste américain mène une enquête sur le célèbre fondateur d'Amazon. Et il fait une curieuse découverte.
J'avais entendu dire qu'il avait une société à Seattle qui avait un projet dans le domaine spatial et qui s'appelait Blue. J'étais étonné. Jeff Bezos, l'un des plus célèbres acteurs d'Internet, a une autre entreprise qu'il essaie de garder secrète.
J'ai roulé jusqu'à une sombre banlieue industrielle de Seattle, et là, il y avait un entrepôt sur lequel était écrit Blue Origin. Quelques camions et des motos étaient garés devant. Je me suis dit, ok, c'est intéressant. Bon, maintenant, une petite confession. Je ne ferai pas ça aujourd'hui. Mais à l'époque, j'ai fouillé dans la poubelle et j'ai pris les documents qui se trouvaient sur le dessus de la pile. Le premier document disait, c'était vraiment un miracle, que Blue Origin préparait une fusée appelée New Shepard. Son but était de lancer le tourisme en orbite basse. La mission de cette entreprise était de permettre un jour à des millions d'humains de vivre et travailler dans l'espace. Et je me suis dit, waouh!
Face à ces révélations publiques, le patron d'Amazon garde le silence. Jeff Bezos préfère la discrétion. Il a pourtant déjà laissé quelques indices sur sa passion secrète, comme lors de cette interview en juin 2000.
If you weren't the CEO of Amazon.com today, what would you like to do or be?
I would like to go help explore space.
Tell me more. I mean, what would you do? How would you go about it if you weren't doing this?
Well, the picture I have is that I would get in a rocket ship, go up into space and, like, you know, go check out a few things. Now,
le rêve de Bezos passe à l'époque pour une blague, une lubie de milliardaire. Si les deux cracks d'Internet sont prêts à dépenser leur fortune pour fabriquer des fusées, c'est qu'ils ont tous les deux cédé à un appel de l'espace qui vient de loin.
Go. Capcom, we're go for landing.
Altitude 4200.
Houston, you're go for landing. Over.
Roger, understand. Go for landing. 3000 feet.
Les deux futurs barons de l'espace, Jeff Bezos et Elon Musk, ont tous les deux grandi en pleine course aux étoiles, à l'ère de l'aventure spatiale.
Il y a probablement plus de similarités entre Elon et Jeff que de différences. Ils viennent tous les deux d'un même monde, d'une même culture de science-fiction, à travers la télévision, les livres, et issus de cette vision d'un âge d'or de l'exploration spatiale dans les années 60.
Jeff Bezos tombe profondément amoureux de l'espace le 20 juillet 1969. Il a 5 ans et il regarde, fasciné, les Américains poser le pied sur la Lune.
Oh, it's beautiful, Mike. It really is. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the limit.
Bezos a grandi à l'époque où le public américain était captivé, électrisé par le programme spatial de la NASA, avec cette génération d'astronautes qui étaient les héros de la culture américaine. Jeff se décrit lui-même comme un geek. Il faisait partie du club informatique, il regardait Star Trek. Comme beaucoup de gamins de l'époque, il a grandi en regardant le capitaine Kirk et les voyages du vaisseau Enterprise. Il s'est passionné pour tout ça.
Au même âge, Elon est lui aussi un fan de science-fiction. Mais son quotidien est bien loin de l'univers familial choyé de Jeff Bezos. De parents divorcés, il grandit à plusieurs milliers de kilomètres, en Afrique du Sud, dans une atmosphère de violence. maltraité par son père, comme par ses camarades de classe. C'était si triste, si effrayant et si menaçant qu'il a commencé à se réfugier dans les livres. Il a commencé à lire autant de science-fiction qu'il le pouvait. Ce qui a changé la donne dans ses lectures de science-fiction, c'est qu'il lisait toujours la même intrigue, une histoire qui se répète. Le monde est en danger, quelqu'un doit faire quelque chose pour le sauver, et un héros improbable sort de nulle part pour le faire. C'est un scénario qu'il a vraiment intériorisé et que l'on retrouve aujourd'hui dans ce qu'il fait. Surdoué et atypique, les deux garçons se passionnent pour l'informatique et les jeux vidéo. Ils s'imaginent embarqués à bord de fabuleux vaisseaux pour vivre dans l'espace. Durant ses premières années, chacun esquisse sa vision d'un avenir au-delà de la Terre. Au tournant du siècle, Elon Musk et Jeff Bezos ont tous deux amassé suffisamment d'argent pour réaliser enfin leur rêve. Installée à Los Angeles, au cœur du quartier aéronautique, la start-up d'Elon Musk, SpaceX, se heurte très vite à un manque de crédibilité. Qui miserait sur cette jeune bande de geeks un brin décalé pour aller dans l'espace? Une prouesse que seules quelques grandes nations ont jusque-là réalisée.
Quand j'ai été embauché, j'étais le quatrième ingénieur de SpaceX. On était comme une bande de copains travaillant ensemble. Presque personne en dehors de SpaceX ne prenait Elon au sérieux. Nous avions du mal à recruter des gens. C'était dur au début. C'est difficile à imaginer parce que maintenant il est comme une sorte de dieu, mais à l'époque, il était considéré comme un charlatan.
On a entendu parler de lui au milieu 2000-2005, un truc comme ça. Et d'ailleurs, à notre grande honte, on en ricanait, hein, en disant « Bonne chance mon gars, c'est compliqué ».
Le gamin de la Silicon Valley est pourtant déjà en train de construire sa première fusée, Falcon, nommée en hommage au mythique vaisseau de la guerre des étoiles. Il est confiant et bien décidé à secouer le marché de l'aérospatial et surtout à casser les prix.
Rockets really should be a lot cheaper than they are today. And I think the way that they're built, the way they're operated is just very inefficiently. And I think with SpaceX and Falcon, we're gonna show that that's the case.
SpaceX est arrivé avec un état d'esprit commercial. Musk venait de la Silicon Valley, il voulait aller vite. Il était prêt à travailler de longues heures pour servir un client privé, et pas seulement le gouvernement.
Les promesses et l'assurance d'Elon Musk agacent le petit monde de l'aérospatial, un milieu fermé et figé depuis les années 60, et dominé par la puissante NASA, l'Agence spatiale nationale américaine.
En 2000, l'industrie spatiale était dirigée par l'État. C'est le gouvernement qui payait pour la plupart des activités dans l'espace.
Il y avait seulement deux entreprises spatiales aux États-Unis, Lockheed Martin et Boeing, qui avaient le monopole des lancements gouvernementaux.
Les puissants patrons de l'industrie spatiale n'ont pas l'intention de partager le gâteau avec un jeune start-upper inconnu. Sean O'Keefe est alors administrateur de la NASA, le grand Manitou de cet establishment spatial. Et il se souvient encore de l'accueil mitigé qu'il avait réservé à ce jeune homme impétueux qui frappait à sa porte.
Il est venu me voir dans mon bureau et m'a dit « Nous aimerions travailler avec la NASA ». J'ai répondu « Super, mais vous êtes loin d'être les seuls ». Quand un entrepreneur arrive et dit « Faites-moi confiance, je peux le faire », alors on lui demande « Montrez-moi déjà ce que vous avez fait ». Et il répond « Eh bien, je n'ai encore rien fait ». En général, c'est pas très vendeur, quel que soit l'endroit et le moment. Montrez-moi d'abord ce dont vous êtes capable et ensuite on reprendra les discussions.
Pendant qu'Elon Musk se démène pour attirer l'attention sur SpaceX, Jeff Bezos travaille dans l'ombre, ici, au beau milieu du désert texan. À tous, il a imposé une règle d'or, le secret. même Rob Meyerson, le numéro 2 de Blue Origin, ne peut pas dévoiler pour qui il travaille.
J'avais juste le droit de dire que j'avais été embauché par une nouvelle société à Seattle. Et c'est tout, je ne pouvais pas en dire plus.
Pour mener ses expériences spatiales à l'abri des regards, le milliardaire cherche à acheter de vastes terrains, dans un endroit tranquille.
À l'automne 2003, j'ai reçu un appel du bureau de Jeff me demandant de me préparer à faire un voyage au Texas avec lui pour aller voir des ranchs. Il a fini par acheter celui au nord de Van Horn, au Texas, et c'est là que nous avons construit notre site de lancement.
Il a rassemblé les propriétés de nombreux ranchs, tous sous des noms d'emprunt, comme des noms d'explorateurs. Sa propriété fait presque la taille de Rhode Island. Tout ça dans un secret total.
Face au lièvre Musk, Jeff Bezos a choisi la stratégie de la tortue.
Notre devise était « gradatim ferociter », pas à pas, férocement. La philosophie de Jeff Bezos était que nous devions être une entreprise qui parle des choses qu'elle a faites plutôt que des choses qu'elle va faire.
C'est l'une des principales différences entre SpaceX et Blue Origin. Bezos était encore en train de construire Amazon, d'en faire l'empire mondial qu'il est aujourd'hui. Et finalement, Blue Origin était plus une sorte de hobby, un projet secondaire. Elon, lui, a investi la moitié de son argent de la vente de PayPal dans ce projet. C'était une entreprise avec un enjeu de vie ou de mort. Elon était à fond dedans dès le départ.
La survie de l'entreprise spatiale d'Elon Musk se joue sur l'île d'Omelek, un petit atoll dans les îles Marshall, en plein Pacifique. Après 4 ans de travail acharné, les ingénieurs de SpaceX sont prêts à envoyer leur fusée Falcon 1 jusqu'en orbite et à prouver à la face du monde leur aptitude à entrer dans la grande cour de l'industrie spatiale.
3, 2, 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3.
La première fusée a volé pendant 30 secondes, puis elle s'est éteinte. C'était la fin du lancement. C'était assez tragique. Et ça m'a beaucoup secoué. Je n'ai pas parlé pendant 4 semaines après ça.
Elon Musk a de quoi financer 3 tentatives. Mais il essuie échec sur échec en 2007. Puis de nouveau en 2008.
J'ai pensé, ça y est, c'est la fin. Mais il a dit, on a une autre fusée, préparez vos affaires et on fait un nouveau lancement dans 6 semaines.
Le 28 septembre 2008, c'est le tir de la dernière chance pour Elon Musk.
Il n'avait plus d'argent. Il avait divorcé cette année-là. Toutes ces épreuves personnelles, financières et techniques lui mettaient une pression terrible.
SpaceX va tenter d'envoyer en orbite pour la 4e fois son lanceur. Dans la salle de contrôle, la tension est à son comble.
On a retenu notre souffle pendant 10 minutes. Et puis ça a marché. Et c'était la folie après ça. Il y a eu beaucoup de cris et d'embrassades.
Ça a été un moment que les gens de SpaceX n'oublieront jamais. Ça a validé tout leur travail et leurs défis face aux normes établies du monde aérospatial.
That's just a huge milestone. There's only a handful of countries on Earth that have done it. It's only a country thing, not a company thing. So it's just an amazing achievement. The future of SpaceX is really great. I mean, this is...
La ténacité de Musk n'est pas passée inaperçue. En décembre 2008, la NASA engage SpaceX pour un contrat de 12 vols de ravitaillement de l'ISS, la station spatiale internationale. Elon Musk et sa compagnie sont sauvés. Et le gouvernement américain, lui, a gagné un nouvel atout pour sauvegarder sa place de leader de l'industrie spatiale mondiale. SpaceX change de dimension. La société s'installe dans de nouveaux locaux. Et c'est le patron lui-même qui fait la visite.
Welcome to SpaceX. Here we are in the lobby. It's very white right now, but there are actually some cool elements coming in soon that will make it less white.
Le nouveau défi d'Elon Musk, construire une fusée pour envoyer des astronautes américains vers l'ISS. La NASA a choisi de mettre en concurrence la petite SpaceX et le puissant Boeing pour mettre au point ce nouveau lanceur. Elon Musk s'investit à tous les stades de la construction de Falcon 9, une fusée trois fois plus puissante que la première.
What we're looking at over there, that's a quarter section of the Falcon 9. It's capable of taking the largest satellites in the world, and it could actually literally fit a city bus in that fairing. It's that big. Because that's just a quarter section of it.
Elon a toujours participé activement à SpaceX, ce qui montre bien l'importance que l'entreprise a pour lui. Il va aux réunions d'ingénieurs, il passe du temps à l'usine pour inspecter.
Il veut savoir comment cela fonctionne. Il voulait vraiment que je lui explique comment nous faisions, comment être moins cher et comment le faire plus rapidement.
Le milliardaire veut aller vite. Il veut convaincre le gouvernement américain qu'il